Nouveaux outils, nouvelles lectures. Alors, bien sûr, nouvelles lectures, lecture, c'est un thème polysémique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par lecture, nouvelle lecture, lecture payante, lecture gratuite, vous me direz à ce moment-là, ça entre dans le thème. Mais je préférais quand même qu'on reste limité parce que ça mérite à soi un débat et un débat réfléchi et peut-être d'ailleurs aussi dépassionné. Voilà. Ok. Est-ce que sur. Je voudrais revenir à un point. Bon, Patrick nous présente une démarche éditoriale sur des objets, si on revient aux pratiques de lecture, qui sont de ce type. Bon, moi j'ai une question, mais pour lancer un débat concret, est-ce qu'en tant qu'éditeur, ce sera disponible sur d'autres appareils que le Palm ? Quelle est votre ligne éditoriale ? Comment vous voyez les pratiques de lecture évoluer ? Parce que l'écran, il est de bonne qualité, notamment avec le Palm 5, mais il est quand même tout petit.
Il est petit. Il est de toute façon évident que pour un éditeur, il faut être présent sur l'ensemble des supports disponibles sur le marché. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec cette machine-là parce que jusqu'à maintenant, c'était quasiment la seule qui soit réellement diffusée. On parle du Rocket Ebook, mais ce n'est pas encore vendu en France. On parle du Cital, mais Olivier va à peine commencer la commercialisation. Adfolio, c'est encore dans les labs. Commencer. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de machine, pratiquement. Donc, j'ai travaillé sur celle-là parce que c'était possible. Il est évident qu'il faut travailler sur l'ensemble des plateformes qui sont disponibles demain. On a parlé de Thomson Multimédia qui a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient développer des machines à lire en récupérant d'ailleurs les technologies GenStar qui ont été achetées, qui proviennent plutôt justement de Rocket Ebook et de Softbook Press, puisque ces deux sociétés ont été achetées au mois de janvier par GenStar. Et donc, Thomson Multimédia va développer des produits sur la base des technologies que GenStar a rachetées. Donc toutes ces machines-là vont sortir courant 2000. Sony a aussi annoncé des choses puisqu'ils ont licencié le système d'exploitation du Palm OS et on sait qu'ils vont sortir des machines aussi courant 2000. Il faudrait être présent, bien entendu, sur l'ensemble de ces machines. Ça ne va pas être facile pour les éditeurs et sentir les choses va être assez délicat, mais il faut y être.
Merci. Est-ce qu'il y a une question pour Patrick en dehors de la question des droits de copie? Non. Bon, je crois que ce que vient de nous dire Patrick est une excellente transition pour passer la parole à Bruno Dessa Moreira de ZeroHeure.com ou des éditions ZeroHeure. Je sais qu'on dit les deux. Et notamment, si vous regardez dans les différentes plaquettes comment ZeroHeure se positionne, j'aime bien ces trois lignes claires, ces trois axes de développement, multiformat, multilingue et nouvelles écritures. Et nouvelles écritures, ça nous ramène aussi à de nouvelles lectures, donc je lui laisse la parole.
Merci, bien bonjour. Donc... Effectivement, ZeroHeure.com est né en. Le projet est né en 97, puis le site web a ouvert en mai 98. Et avec l'idée que l'on pouvait utiliser les nouveaux outils numériques qui arrivaient, en particulier l'Internet, pour continuer à faire de l'édition. Donc venant de l'édition traditionnelle nous-mêmes et conscient que celle-ci était en proie à des difficultés insolubles dues à la teneur qu'a prise le marché du livre. Hein, et on connaît le problème aujourd'hui pour un éditeur d'érudition, de sciences humaines ou voire un éditeur tout court qui veut prendre le risque d'un auteur méconnu. On connaît le problème de la difficulté à pouvoir prévoir les ventes et tenir le choc face aux invendus et aux retours et donc aux pertes d'exploitation. Et il faut quand même dire que globalement, quels que soient les efforts des uns et des autres, la lecture sur papier va mal, puisque c'est un marché qui stagne, et c'est un marché qui est concurrencé par les médias, les autres médias, et si on demande aux uns et aux autres leur temps de lecture de livres depuis maintenant des dizaines d'années, ce temps diminue, concurrencé par la télévision, concurrencée par d'autres sources de divertissement ou de culture. Arrive Internet, et avec Internet arrive finalement un retour de l'écrit. Parce que sur le net, on passe son temps à lire, parce que sur le net, ce qui circule bien aujourd'hui, c'est l'écrit, enfin bien dans le sens vite, parce que d'une certaine manière, l'écrit a cette petite chance que pendant quelques années, la technologie n'est pas assez bonne pour transmettre l'image et le son aussi bien que l'écrit. Et puis, avec le net, arrive la correspondance électronique et la possibilité de s'écrire à nouveau avec des outils plus adaptés à notre mode de vie. Et tous autour de nous, je pense qu'on peut faire l'expérience de l'économie de téléphone que cela nous permet de faire. Et que cette correspondance électronique, cette lecture électronique, elle est devenue carrément indispensable pour notre travail. Et elle est maintenant, je pense, en passe de devenir indispensable pour nos loisirs. Donc, face à cette situation, chez Zero Heure, on se pose la question de comment continuer à faire de l'édition avec tous ces nouveaux outils et avec la conviction que on doit pouvoir le faire dans le respect et la continuité de valeurs auxquelles on est attaché, et en particulier de valeurs dans le métier de l'éditeur. Donc pour nous, en fait, il s'agit de se désolidariser du support de l'écrit et d'une certaine manière d'accepter qu'il y aura plusieurs supports. Le papier en est un, on le pratique et on y tient. Et l'écran en est un autre. Et l'écran, maintenant, on voit qu'il faut dire les écrans. Donc, finalement, la logique nous mène à penser que, in fine, c'est le lecteur et c'est l'auteur, et donc, en tant qu'intermédiaire, l'éditeur, qui vont y gagner. Parce que plus on va faciliter l'accès à la lecture, plus on va faciliter les diversités et les variétés de lecture, plus on va remettre en phase avec notre époque l'activité de lecture, et plus on lira. Donc voilà, ce sont quelques, je dirais, lignes de fond importantes pour nous présenter. Et à partir de là, eh bien, sur le site web des éditions Zero Heure, on peut consulter un catalogue d'œuvres qui sont toutes disponibles en téléchargement pour une lecture à l'écran ou éventuellement une impression à domicile par soi-même, et qui sont toutes aussi disponibles sur papier pour une commande d'un livre traditionnel qui vous sera envoyé par la poste. Alors s'ajoutent quelques petites subtilités, à savoir que en tant que maison d'édition, nous sommes à la fois un éditeur au sens de l'éditeur de livres de poche, c'est-à-dire que nous rééditons des ouvrages qui ont été publiés par nos confrères éditeurs traditionnels. Et donc, en fait, nous sommes des spécialistes d'un nouveau ou de nouveaux formats, exactement comme l'éditeur de poche est un spécialiste de son format. Ça veut dire que on le produit, on le commercialise sous notre marque, et ça nous donne une spécificité par rapport à un type de clientèle, à un type de canal de distribution, à un type de demande, à un type de politique commerciale. Et ça, c'est un schéma très courant dans l'édition. On sait qu'un livre peut avoir plusieurs vies. Une vie en format original en librairie, puis une vie en format de poche, et puis, s'il a de la chance, une vie dans les clubs. Et puis, s'il a beaucoup de chance, une vie sur les écrans de cinéma. Nous, on pense que tous les livres, qu'ils aient de la chance ou pas, peuvent avoir une autre vie, une vie complémentaire, une vie additionnelle sur les écrans tout court. Et donc, c'est l'idée d'ouvrir ensemble avec les éditeurs traditionnels une nouvelle fenêtre de marché pour l'écrit, pour le livre, qui est celle des écrans numériques. Donc sur le site des éditions Zero Heure, on peut télécharger son livre pour le lire ou l'imprimer soi-même, pour le lire à l'écran ou l'imprimer soi-même, et on peut aussi commander un livre imprimé, et comme je le disais, on est soit rééditeur, à ce moment-là, ce livre imprimé, c'est celui que vous trouvez en librairie, c'est le même, soit on est éditeur d'œuvres originales, et à ce moment-là, ce livre imprimé, on le fabrique pour vous, et on le fabrique à l'unité, et on le fabrique grâce au numérique. Cela nous permet, nous éditeurs, de retrouver les conditions économiques de la création, puisqu'on s'affranchit de la matière, on s'affranchit des stocks, on s'affranchit des risques d'invendu ou de retour, et on ne fabrique exactement que ce que l'on vend. Alors bien sûr, le livre à l'unité coûte beaucoup plus cher à fabriquer, mais au sens économique, c'est plus sain, parce que le danger, ce n'est pas le coût de revient de l'ouvrage, c'est de perdre finalement dans les stocks. Alors je termine en disant que effectivement, c'est retrouver les conditions économiques de la création, parce qu'en tant qu'éditeur, nous avons donc un certain nombre de, nous publions un certain nombre d'œuvres originales. Et là, on s'intéresse plus particulièrement à des œuvres de création que Internet nous permet de faire, je dirais, un peu plus facilement que si on était éditeur uniquement traditionnel en ouvrage imprimé. Je peux donner deux ou trois exemples pour vous donner. Et là, c'est une question de sensibilité et de compréhension de notre outil, finalement. Faire des livres qui ont du mal à voyager. Je reprends l'exemple de Citrouille Fêlée de Amit Skif, qui nous a fait l'amitié de venir sur le stand signé avant-hier, et qui était l'ouvrage de cet auteur algérien qui vit en exil en Allemagne, et qui un jour nous a envoyé son manuscrit en nous disant « Mais moi je pense à Internet, parce que pour moi c'est la dernière chance de pouvoir être lu en français en Algérie. Mon livre imprimé ne rentrera jamais. » On a lu son manuscrit, on a été enthousiaste et on l'a publié. On est en septembre 98, et 6 mois plus tard, je reçois un coup de fil de la FNAC qui me dit « Écoutez, on fait une opération autour de l'Algérie, on trouve ce bouquin excellent, on aimerait beaucoup pouvoir le vendre en librairie. » Et je leur explique que mon système ne me permet pas de prendre le risque de stock et de retour. Peu importe, on a réussi à trouver les conditions économiques saines pour que ce livre puisse être diffusé en librairie. Donc voilà un bouquin qui n'aurait jamais vu le jour en librairie s'il n'était pas né sur Internet. Autre exemple, la collection de scénarios de cinéma qu'on coédite avec Arte, où là, en fait, l'idée est toute simple, c'est de dire que le moment où un public spécialisé, hein, pointu, peut avoir envie d'un scénario de film, c'est quand le film sort à l'affiche. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est les mardis soirs, sortir un bouquin qui est en fait un scénario d'un film à l'affiche, qui sort le mercredi. Et donc, on a publié comme ça L'Humanité de Bruno Dumont, ou... Voyage d'Emmanuel Finkiel, ou plus récemment Ressources humaines, bien sûr en s'intéressant à des scénarios de films à texte. Mais là encore, vous comprenez bien que la qualité de l'Internet, hein, l'avantage de ces outils-là, c'est justement leur possibilité d'immédiateté, de rapidité de diffusion. Hein, et que c'est un atout qui nous amène aussi à maintenant faire aussi des œuvres un peu hybrides, un peu difficiles à catégoriser. Par exemple, on vient de lancer un ouvrage... d'une certaine Julie Benoïc qui vit à Kaboul, qui se cache et qui nous envoie ses chroniques. Ça s'appelle Ici Kaboul. C'est assez étonnant et c'est un témoignage sur le terrain poignant et que l'on veut continuer, que l'on veut auquel on veut pouvoir donner la durée pour aussi permettre de comprendre ce qui se passe. L'outil nous amène, nous, éditeurs, à penser des ouvrages, voire des collections nouvelles, et en particulier la collection 2003, qu'on lance ici lors du Salon du Livre, qui est une collection... Pourquoi 2003? Parce que 2003, on n'y est pas tout à fait, mais on y est presque. Donc... Donc en fait, c'est l'idée qu'il y a maintenant une génération d'écrivains ou d'auteurs qui, ça fait des années qu'ils utilisent le micro-ordinateur et qui un peu, je dirais, spontanément, commencent à s'exprimer en utilisant des fonctions avancées de l'ordinateur. Et donc qui intègrent de façon naturelle, de façon, je dirais, digérée, l'hypertexte, le multimédia, et qui donc aujourd'hui propose une expression à la base écrite, dont la version la plus aboutie et la plus riche a lieu à l'écran. Et cette écriture-là, elle n'élimine pas forcément le papier, puisque fidèle à notre point de vue, on publie aussi ses ouvrages de 2003 sous forme de livres reliés. Mais là, la chaîne s'est inversée, c'est-à-dire que le livre papier est une adaptation de l'œuvre originale. Alors on a lancé au salon là, deux œuvres que je vous invite à découvrir chez Zero Heure, qui sont Apparition inquiétante, qui est une hyperfiction que j'aurais du mal à vous décrire rapidement, et qui est écrite par Anne-Cécile Brandenburger, une auteure belge qu'on a rencontrée par internet finalement. Et puis, et qui est d'ailleurs, je pense, la première œuvre originale de ce type de nouvelle écriture à être publiée dès le premier jour. Au format numérique et au format papier, mais au format numérique avec un S, c'est-à-dire que qu'elle est disponible aujourd'hui pour votre micro-ordinateur, pour le Rocket e-book, ceux qui peuvent en avoir un, et très bientôt pour le Cital, ceux qui peuvent en avoir un aussi. Donc ça, c'est bon, un petit clin d'œil au fait que l'idée, c'est que dès le départ, pour nous, il n'y a pas d'idée de fenêtre de temps successive. Dès le départ, une même lecture doit pouvoir être disponible sur tous les supports, et c'est le lecteur qui choisit. L'autre œuvre de 2003 qu'on lance pendant le salon, c'est « Qui veut tuer Fred Forrest ?» Et là aussi, c'est un peu spécial, mais c'est pas du tout dénué d'intérêt littéraire, croyez-moi. Je vous invite à y jeter un œil. Voilà.
Merci Bruno pour cette présentation de l'activité éditoriale de Zero Heure. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui.
Pour l'instant, ça n'est pas possible. Quelles sont les évolutions que vous prévoyez dans ce sens-là?
Je pense que ce sera bientôt possible. En fait, on a déjà quelques livres jeunesse illustrés, assez pauvrement illustrés, pour être honnête. Mais Apparition inquiétante est une œuvre illustrée aussi. Là on se retrouve dans la situation du compromis, c'est-à-dire qu'on doit faire un compromis entre la richesse de l'illustration et le temps que cela va demander au lecteur pour le télécharger. Et là j'ai presque envie de vous demander à vous jusqu'où vous êtes prêts à attendre. Moi je serais assez content de pouvoir faire des œuvres très richement illustrées, mais j'ai un peu peur de décevoir mes lecteurs si je leur demande de rester une heure en ligne pour la recevoir. Donc je crois qu'on va aller vers du toujours plus, hein, enfin de pouvoir faire plus. On va s'affranchir de ces contraintes technologiques assez vite maintenant, mais bon, c'est vrai qu'elles existent encore. Question embarrassante, donc effectivement il faut parler de vente, bonne remarque, mais pas de tirage. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que pour dans nos œuvres originales, pour ce qui est des best-sellers, on parle maintenant en milliers d'exemplaires et non plus en centaines.
Et le prix, lorsque vous les tirez à l'unité, les bouquins, un livre revient à combien approximativement ?
Alors la particularité de l'impression numérique, c'est que le prix est directement en fonction du nombre de pages. Et que le prix du deuxième exemplaire est le même que le prix du premier. Donc, bien sûr. Donc pour vous donner des points de référence, un ouvrage de 200 pages papier, comment il fait celui-là ? Attends. Celui-ci, on vous l'offre pendant le salon. Bon, ça, c'est un format 0 heure de 100 pages. Et ça, ça va nous revenir dans les 20 francs à l'unité. Donc, c'est cher. On se bat, nous, pour maintenir pour autant un prix de vente au public qui correspond au prix de vente d'un livre, d'un inédit en librairie. La version numérique par rapport à la version papier, donc là il y a plusieurs cas de figure, mais je dirais que cela varie entre un tiers moins cher à 80% moins cher. En fait, un tiers moins cher, la moyenne pour nous c'est à peu près la moitié prix, le numérique à la moitié prix du papier. Mais pour des nouveautés importantes, ce sera parfois seulement un tiers moins cher, et ça, on le fait toujours en bonne intelligence avec l'éditeur d'origine. Quand il s'agit donc de réédition. Ce qui est beaucoup, beaucoup moins cher en numérique, c'est les œuvres du domaine public. Donc là, notre premier prix chez nous, c'est 1 euro, donc 6 francs 50. Donc là, 6 francs 50, c'est Molière, Voltaire, Rousseau, Descartes, etc. Et c'est pas gratuit, parce que on continue à faire un travail d'édition sur ces œuvres, hein, de relecture, correction, mise en page, éventuellement d'appareil critique. Toutes ces étapes qui font que on aura, j'espère qu'on pourra donner les meilleures conditions de lecture in fine à notre lecteur, et que vous le savez comme moi, ces ouvrages sont parfois disponibles gratuitement par téléchargement sur internet, mais c'est des ouvrages à ce moment-là qui correspondent à des saisies bénévoles et sur lesquelles on n'est pas toujours tout à fait certain sur le plan éditorial de la correspondance fidèle entre ce qu'on obtient et l'original. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de continuer à faire un métier d'édition où l'éditeur est là pour justement éviter que le lecteur souffre d'un manque de qualité dans sa lecture. Et c'est bien pour ça qu'on le fait. Là, je vous comprends pas. Ce que j'ai dit, c'est que notre prix de vente, on essaye de maintenir un prix de vente qui soit similaire au prix du marché, même si notre coût de revient de fabrication est beaucoup plus élevé. Et si je vous comprends bien, vous dites oui, mais vous évitez la librairie, en gros. Mais on n'évite pas, nous, tout notre système, toute notre librairie à nous. Faire tourner un site comme Zero Heure, c'est une équipe de 20 personnes, c'est une structure, c'est de la technologie, c'est des investissements lourds. Si vous allez sur le site Zero Heure, vous verrez que c'est un site très au point, entièrement dynamique, extrêmement, riche en informations sur les lectures qu'on propose. Pour tous les livres en ligne, vous pouvez lire des extraits, vous pouvez lire des revues de presse, vous pouvez lire des commentaires de lecteurs, vous pouvez découvrir des liens qu'on produit à chaque fois pour chaque ouvrage, en vous disant, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez poursuivre votre lecture sur tel et tel site. On essaye d'apporter, nous, un écrin à ces textes et une valeur ajoutée à leur mise en scène, qui fait que finalement, même si c'est pas à un autre libraire qu'on va donner une commission de revendeur, il faut quand même que nous, en tant que revendeur, on se rémunère.
Oui. Ma question porte sur la librairie électronique qui est en amont du livre électronique.
Où êtes-vous ? Pardon.
Je voulais savoir quelles sont les catégories de livres que vous visez, notamment si dans, le, dans un futur proche, vous, vous visez aussi, également le livre scientifique technique.
Ah oui, ça c'est très important pour nous. En fait, le bon sens aurait été même de commencer par ça. Mais bon, c'est pas notre, je dirais, notre domaine de compétence initiale, en fait. Nous, on n'était pas des éditeurs spécialisés, et c'est vrai que bon, par histoire personnelle, par, on essaye aussi, comme tout le monde, de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Bon, bah, on a commencé par ce qu'on connaissait bien et parce qu'on avait envie le plus de faire. Mais comme vous, je pense qu'il y a un public qui est déjà là et qui est demandeur, en particulier sur tout ce qui est sciences et techniques et sciences humaines. Et il faut qu'on y aille très vite.
Bonjour. Est-ce que vous avez des projets vis-à-vis du monde scolaire, dans la mesure où vous avez là aussi la possibilité peut-être d'avoir une clientèle, entre guillemets, qui a des besoins très précis?
Absolument. Donc là on a plus que des projets, on a déjà des réalisations. Vous verrez que sur le site de Zéro Heure, on a ouvert maintenant une collection scolaire et universitaire, au sein de laquelle on trouve des... Alors là, on est dans un schéma encore un peu différent, c'est que ce sont des, finalement des, presque des coéditions, des adaptations de d'ouvrages qui proviennent de partenaires éditeurs, comme en particulier, je citerai les éditions Bréal, ou les éditions Didier, ou Nathan, et avec lesquelles on a donc essayer ensemble de réfléchir à un transport en numérique qui soit pas simplement que le PAL duplicata, hein, le facsimilé à l'écran du bouquin, mais qui soit aussi avec un enrichissement interactif pour que la valeur pédagogique de la version numérique soit forte. Et donc ça nous intéresse beaucoup en ce moment. On a la chance d'avoir pu convaincre et obtenir le soutien du ministère de l'Éducation, qui nous a mis à disposition un professeur qui s'appelle Marc Kirsch, qui est d'ailleurs aujourd'hui sur le stand si vous voulez le rencontrer, qui a donc maintenant la casquette chez nous de développer une offre éditoriale scolaire et universitaire. C'est un agrégé de philo normalien qui s'est beaucoup posé de questions de pédagogie et qui nous aide, nous guide, nous permet de développer cette offre à direction de ces publics.
Bien, je vous propose, parce que le temps passe vite, de passer la parole à Dominique Arrault du Conseil supérieur des bibliothèques. Le Conseil supérieur des bibliothèques réfléchit évidemment aux nouveaux usages que vont introduire ces nouveaux outils, aux nouvelles lectures que cela peut provoquer. À travers ce qu'a dit Bruno, vous pouvez voir poindre quelques thèmes, donc une nouvelle écriture avec des textes de fiction hypermédia, une nouvelle pédagogie, c'est peut-être exagéré, mais disons une nouvelle manière de concevoir des textes à usage scolaire. Je vais laisser Dominique.
Merci Pierre. Voilà. Avant de commencer, je voudrais dire juste un petit mot personnel, c'est que dans un débat de ce type et sur un sujet comme celui-là, il y a une voix aujourd'hui qui nous manque, un humour, une vigueur intellectuelle, un goût du paradoxe qui était celle de François Renner, qui était un assidu de nos débats et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et je voulais le dire simplement aujourd'hui. Les organisateurs de cette rencontre, au début, nous ont distribué, je ne sais pas si c'est une forme de provocation, un petit livre lié dont les pages sont blanches. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'Olivier Pujol et Pierre Lehorer avaient commencé à noircir effectivement ce petit livre. Alors, bien entendu, le CSB s'intéresse à ces questions. Il ne fabrique rien, pas d'outils, de dispositifs de lecture, etc., mais un rapport annuel que vous trouvez en ligne sur le serveur de l'INSIB et en anglais depuis quelques jours. C'est une nouveauté. Alors, sur un sujet comme celui-là, on pourrait résumer les relations entre un objet nouveau comme le livre électronique et puis les bibliothèques, qui, elles, sont des objets relativement bien connus. Il ne peut pas y avoir de réponse univoque toute faite à une telle question. Daniel Renoux, dans le débat de ce matin, parlait de bibliodiversité. Bon, il y a effectivement la Bibliothèque nationale de France qui ne doit pas cacher la forêt de toutes les autres bibliothèques de type et de taille variées. Il y a une question qui est double, au fond. Il y a la question posée effectivement par cet objet, ces objets, j'ai envie de dire, puisqu'on nous a présenté des dispositifs relativement différents, et puis qui est une question qui peut apparaître comme neuve, insolite, qu'il faut explorer, et puis il y a une question qui, elle, est quand même depuis un certain nombre de mois et d'années bien connue des bibliothèques, qui est la question de la, des ressources électroniques, du flux d'informations sur les réseaux et la façon dont les bibliothèques, en fonction de leur mission, de leur public, s'adaptent à cela. Ce qui me paraît intéressant, dans le cas précis du livre électronique, c'est effectivement, en quelque sorte, un retour au textuel. Parce que par une forme de paradoxe, si vous observez, on a vu, d'après le petit sondage mené en début de séance, que vous êtes des assidus de l'interrogation sur Internet, si on regarde ce que font les bibliothèques françaises, mais aussi beaucoup de bibliothèques étrangères, c'est, dans de très nombreux cas, de numériser des images patrimoniales, des textes patrimoniaux, mais peut-être beaucoup d'images. Et là, on a un retour vers le textuel et des textes longs, ce qui n'est pas sans intérêt. Alors, je me livrerai peut-être à quelques réflexions très rapides en faisant une comparaison qui peut apparaître comme rhétorique et un peu facile entre le livre électronique et les bibliothèques. Si on regarde le cas des bibliothèques, on peut résumer très, très vite leur mission essentielle et leur façon de fonctionner, qui sont à la fois une mission de diffusion très large, démocratique, de l'information, de la culture, une mission d'ouverture intellectuelle, de mise en perspective via l'encyclopédisme, aussi dans les pratiques des bibliothèques et des bibliothécaires, une recherche constante d'accessibilité, y compris sur le terrain de l'informatique et de l'électronique, avec l'adoption de standards ou de standards de fait largement diffusés, que ça aille du Z3950 des catalogues au format PDF, à HTML, avec tout ce que ça implique d'accessibilité, de gratuité, de liberté d'accès. Une mission aussi de formation, d'autodidactie, une mission de sociabilité, de partage autour de l'écrit, autour du savoir. Je continue sur la voie de cette comparaison qui est provisoire, rhétorique, peut-être un peu provocatrice, si je regarde l'offre de livres électroniques, on a devant nous des catalogues qui sont encore relativement pauvres. Hein. Les choses sont en train de se faire. Je lisais un document de communication, un document publicitaire qui disait tel catalogue qui comporte près de 500 livres, c'est-à-dire à peu près autant que les titres de la Maison de la Presse de la Souterraine ou d'une petite bibliothèque d'un dépôt du Tarn, pour ne prendre que cet exemple. Une absence temporaire, on l'a redit à l'instant, une absence provisoire de standards de diffusion, mais il y a apparemment une volonté en cours, donc l'absence évidemment de catalogue collectif, l'absence d'usage universel ou d'outils universels au sens où on parle de télécommande universelle, hein, et puis des dispositifs techniques pour l'instant relativement incompatibles et quand même qui ont leur prix. Alors, je crois que, bon, c'est une comparaison rhétorique un peu facile, mais c'est une manière aussi peut-être d'amorcer notre réflexion. Est-ce autant dire que ces objets nouveaux ne concernent pas les bibliothèques? Je crois que ce serait une erreur de le dire, et ça serait en tout cas quelque chose de très, très aventuré. Ça serait une erreur si on examine effectivement les avantages indéniables de l'objet livre électronique, qui a l'avantage au passage de redonner une forme, un contenant à tous ces flux de textes et d'informations. Premier avantage, ça a été dit par plusieurs intervenants, la capacité bien supérieure à celle d'un seul livre traditionnel qui permet en outre de juxtaposer des contenus éventuellement hétérogènes, des livres, des articles, éventuellement des notes personnelles. La lisibilité, le confort de lecture, bon, on voit dans les bibliothèques tout à fait des applications du côté du public des malvoyants ou aussi des pratiques de lecture qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment explorées dans ce domaine de jeunes publics ou de publics en difficulté avec l'écrit. Si on fait une comparaison avec l'ordinateur, je crois que la vraie comparaison, c'est peut-être pas entre le livre électronique et le livre traditionnel, mais entre le dispositif technique, livre électronique, et puis le micro-ordinateur, complexe d'utilisation, lourd, difficile à lire. On a parlé des 7-8 minutes de seuil de fatigue de lecture sur écran. Donc la maniabilité du livre électronique, sa compacité, sa portabilité, et puis la personnalisation du rapport au texte, avec la prise de notes, la recherche par mots du texte, etc. Au passage, d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que dans les bibliothèques, dans les règlements des bibliothèques, quand on les observe un peu en détail, on n'encourage pas précisément les lecteurs à prendre des notes sur les ouvrages traditionnels qu'ils empruntent. Alors, je crois en même temps que le livre électronique arrive à un moment de notre histoire intellectuelle, de l'évolution du rapport à la connaissance, qui est un moment tout à fait critique, car qu'on doive s'en réjouir ou le déplorer, ce livre électronique dans son offre me paraît correspondre à deux tendances concomitantes qu'on constate aujourd'hui parmi les publics, qui est à la fois la tendance à l'intégral, à l'exhaustif, on veut tout Zola. Je prendrai un exemple musical. Quand on voit les deux tentatives d'intégrale de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach sous forme de disques, 200 disques, il y a à la fois le désir du tout, et puis en même temps, on a envie d'entendre l'aria des variations Goldberg, 1 minute 50 sans les reprises, dans une compilation ou directement sur son micro-ordinateur via MP3. Il y a ces deux attitudes qu'on retrouve aussi dans les bibliothèques, avec effectivement le désir du texte, le désir des corpus, et puis le désir de l'article très pointu ou de l'extrait d'informations déjà presque préemballées sur un sujet précis. Alors, je crois véritablement que les potentialités de l'objet, la pertinence par rapport à un certain nombre d'usages, mériteraient d'être explorées. Là, je m'adresse à mes voisins de tribune pour dire que il faut absolument lancer des expériences avec des bibliothèques de type varié, avec par exemple une section de bibliothèque universitaire, avec une bibliothèque de collège, avec des bibliothèques publiques de taille variée, et voir au fond quelles sont les attitudes de public, quelles sont les attitudes des bibliothécaires par rapport à leur mission, par rapport aux services qui peuvent être rendus. Je crois que ça apporterait beaucoup au progrès de tels objets et aux services qu'ils pourraient rendre. On pourrait imaginer que sur un trimestre, par exemple, on puisse prêter à des étudiants un cartable virtuel sous forme de e-book qui contiendrait à la fois des cours, les articles qui vont avec, les œuvres au programme. Mais on mettrait ainsi fin aux queues devant les photocopieuses, au découpage des ouvrages, au vol de livres, à un certain nombre de... et à la dépendance parfois excessive de certains étudiants par rapport à l'outil micro-ordinateur qui pose un certain nombre de problèmes à la fois de possession et d'usage. Dans un autre registre, par rapport aux activités de prêt des bibliothèques, on peut, en faisant un peu de bibliothéconomie fiction, imaginer qu'on achète des nouveautés pour un an, dont on achète les droits pendant un an, et puis au terme de cette année de circulation du texte, on choisit, en connaissance de cause, de le garder, de l'inscrire durablement dans le fond de la bibliothèque, ou au contraire, de considérer que c'est effectivement un texte qui n'a pas forcément vocation à durer, en tout cas partout, dans toutes les bibliothèques. On pourrait imaginer aussi l'intérêt qu'on pourrait tirer d'un tel dispositif pour des ouvrages de péremption très rapides. On pense à des manuels d'utilisation d'informatique, à des annuaires, à des livres pratiques constamment réactualisés. Il y a effectivement tout un ensemble d'usages qui peuvent être effectivement envisagés. De manière peut-être plus profonde, et Pierre me pardonnera peut-être d'aborder, ne serait-ce que de façon un peu séquente, la question économique. Je crois que la question qui est posée, c'est celle des bibliothèques, comme le dit Patrick Bazin, d'espace public du savoir. En 2004, il y aura 35% des foyers français qui seront connectés à Internet, c'est-à-dire qu'il y aura les deux tiers qui ne le seront pas. Il y a 95%, Patrick Bazin disait cela ce matin dans un débat, 95% du savoir en train de se faire qui circule sur Internet. Il y a effectivement des missions fondamentales, politiques, de services publics dans notre société. Et il faut voir comment ce dispositif du livre électronique, qui est un dispositif individuel, un objet, une lecture, unique et non pas forcément un partage très, très facile, très libéral du texte, comment tout ça s'inscrit. Est-ce que le livre électronique va avoir un rôle démultiplicateur dans la diffusion de l'écrit, ou est-ce qu'au contraire, à travers l'équation un livre, un lecteur et un seul, on appauvrira effectivement l'usage de cette diffusion de l'écrit? C'est une des questions qui est posée. Je m'arrête là parce que j'étais trop long.
Merci Dominique. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées dans cette dernière intervention, notamment face à un problème vis-à-vis d'un public qui vient, je crois, en grande partie des bibliothèques, pas seulement, mais en grande partie. on a guère de temps parce que je crois qu'il y a une table ronde qui doit suivre. Est-ce qu'il y a une question ou deux ? On vous avait posé pas mal de questions pendant les interventions et après les interventions.